Chapitre 3. Isidore Beautrelet n'est pas mort. Il est seulement blessé. Monsieur Filleul a raconté au journaliste les exploits de son jeune conseiller pendant ces 3 jours mémorables. Et maintenant, chacun donne son avis. Spécialiste et technicien du crime, romancier, homme de loi et ancien chef de la police, tout le monde reprend les paroles d'un élève du lycée Janson de Sailly. Son nom apparaît en gros sur le grand journal qui annonce « Demain, M. Isidore Beautrelet nous révélera la vérité sur l'affaire d'Embrumésy. » Il est 10 heures du soir. Isidore Beautrelet a rendez-vous avec Arsène Lupin dans un appartement parisien. Un jeune homme avec des cheveux blonds et une barbe l'accueille. « Je vous remercie, Monsieur Beautrelet. Vous avez accepté de retarder vos révélations. » Beautrelet répond avec politesse. « Je n'avais pas le choix. Dans votre lettre, vous menacez mon père. »« Moi aussi, je n'avais pas le choix, » dit Lupin en riant. « Je dois vous parler. Mais d'abord, veuillez accepter mes excuses. » « Pourquoi ?»« Pour le geste de M. Brédoux. » « Oui, j'ai été surpris. Ce n'est pas le style d'Arsène Lupin, le gentleman. » Brédoux est nouveau dans l'équipe. Il a voulu bien faire. Il a pris seul la décision de vous frapper. J'ai fait des reproches à M. Brédoux, mais je le comprends. Vous avez avancé très vite dans votre enquête. Il n'y avait plus de temps à perdre. Vous aviez le papier avec vous. Cela m'a évité d'être enlevé comme M. Ganimard et M. Sholmès. Tout à fait, dit Lupin en riant à nouveau. « Je suis vraiment désolé. Vous êtes si pâle. Donnez-moi une preuve de confiance et j'oublie tout. » Beautrelet est-il sérieux? Face à cet adolescent, Lupin est différent. Il n'a pas son assurance habituelle. Il hésite. Il a l'air de chercher, d'attendre. Mais quoi? Soudain, on sonne à la porte. Arsène Lupin va ouvrir et il revient avec une lettre. Il la lit et il sourit. On retrouve l'homme sûr de lui. Il pose la lettre sur la table et dit sur un ton sec « Maintenant, monsieur Beautrelet, nous sommes ennemis et nous le savons. Nous devons donc traiter l'un avec l'autre en ennemis. Vous devez me faire une promesse, sinon c'est la guerre. » Beautrelet semble très surpris. « Je ne comprends pas. Pourquoi ces menaces? Une promesse ?» Arsène Lupin ne veut plus être gêné dans cette affaire. Beautrelet ne doit pas parler au grand journal. Lorsque Brédoux l'a frappé, Isidore Beautrelet allait tout raconter. Son article est prêt. Il doit paraître le lendemain. Lupin le sait. Il veut faire promettre à Beautrelet de se taire. Et il crie « Il ne paraîtra pas !» Beautrelet résiste, il affirme « Il paraîtra !» Les deux hommes sont maintenant debout. Ils sont face à face. Il y a beaucoup de tension. Beautrelet informe Lupin qu'il a déjà envoyé son article au journal. Arsène Lupin est furieux. Il demande à Beautrelet d'aller au grand journal récupérer son article. Beautrelet refuse. Lupin perd patience et s'exclame « Tu vas faire ce que je te dis parce que sinon... » « Parce que sinon... » « Ton père sera enlevé cette nuit. Il sera enlevé comme Ganimard et Herlock Sholmès. » Beautrelet sourit. Il garde son calme. Il explique qu'il a promis de parler. Alors, il parlera. Il dira la vérité. Grâce à son article, tout le monde va savoir que Lupin est vivant. Tout le monde va savoir pourquoi il fait croire qu'il est mort. Il ajoute que son père ne sera pas enlevé car il est à l'autre bout de la France, à Cherbourg, dans une maison surveillée par ses amis. Pendant que Beautrelet parle, Lupin est immobile. Il ne montre aucune émotion. On a l'impression qu'il va se jeter sur Beautrelet et l'étrangler. Lupin prend alors la lettre sur la table, la tend à Beautrelet. Il dit, très sûr de lui, « Tiens, bébé, lis !» Isidore lit la lettre. Il comprend qu'Arsène Lupin a enlevé son père. Isidore cherche à cacher ses sentiments, mais l'émotion est trop forte. Il prend son visage entre ses mains et il commence à pleurer. Lupin s'approche d'Isidore et lui parle avec gentillesse. Quand on décide de se battre, il faut accepter avec courage les difficultés. Nous ne sommes pas ennemis. Depuis le début, je te trouve intelligent, sympathique. J'ai même de l'admiration pour toi. Mais ne te bats pas contre moi. La lutte n'est pas égale. J'ai beaucoup de moyens. Ce secret de l'aiguille creuse, c'est peut-être un trésor formidable ou un endroit invisible et fantastique. Je t'en prie, abandonne. Je ne veux pas te faire du mal. Beautrelet est à nouveau calme. Il ne pleure plus. Il réfléchit à sa décision. Puis il annonce à Arsène Lupin qu'il accepte de modifier l'article, mais à une condition, la libération de son père. Lupin accepte. Si l'article du grand journal est comme le demande Lupin, le père Beautrelet sera libéré. Lupin regarde Beautrelet prendre son chapeau et partir, et dit à voix basse « Pauvre enfant !» Le lendemain matin, le grand journal publie l'article d'Isidore Beautrelet. L'affaire d'Embrumésy. Je vais vous raconter cette affaire en reprenant l'ordre chronologique. Certains faits sont vérifiés, d'autres s'appuient sur des hypothèses. Tout d'abord une question. Comment Lupin, très gravement blessé, a-t-il survécu 40 jours, seul, sans nourriture, sans soins, dans la crypte d'une chapelle? Tout a commencé le jeudi 16 avril. À 4 heures du matin, Arsène Lupin est surpris pendant un cambriolage. Il s'enfuit vers les ruines du château, il est blessé par balle, il arrive à se cacher dans la chapelle, il est épuisé. Il entend des bruits de pas qui approchent. C'est Raymonde de Saint-Véran. Que s'est-il passé? Il est facile de deviner la suite de l'histoire. La jeune fille est face à un homme blessé. Et c'est elle qui l'a blessé. Il va bientôt être arrêté. Elle hésite. À ce moment, en quelques phrases, Lupin lui révèle le nom de l'assassin de Jean Daval. C'est son oncle, le comte de Gesvres. Elle le croit. Elle hésite à nouveau. Là où ils sont, personne ne peut les voir. Ni le domestique Victor près de la petite porte, ni Albert à la fenêtre du salon. Elle décide donc d'aider Lupin et le cache dans la chapelle. Raymonde de Saint-Véran est devenue la complice d'Arsène Lupin. Elle ne peut pas revenir en arrière. Pire, elle doit continuer. Ainsi, elle écrit elle-même la lettre avec sa propre menace de mort. Si la fille a tué le chef, on se vengera. C'est aussi elle qui m'empêche de mener mon enquête. Elle affirme à M. Filleul qu'elle m'a vu la veille du meurtre dans le château. Elle donne de fausses informations, elle modifie des indices. Elle brouille les pistes. Pendant 40 jours, elle s'occupe de Lupin, le nourrit et le soigne. Deuxième question, pourquoi Lupin veut-il faire croire qu'il est mort? Pendant 40 jours, Lupin voit Raymonde de Saint-Véran, qui est très jolie, tous les jours. Il tombe amoureux d'elle. Mais la jeune fille ne l'aime pas. Elle vient le voir de moins en moins. Le jour où il est guéri, elle ne vient plus. Désespéré, Lupin décide de l'enlever le samedi 6 juin, avec l'aide de sa bande. Et pour être tranquille, Lupin fait croire que Mademoiselle de Saint-Véran est morte. On retrouve son corps, on l'identifie grâce à son bracelet. Je n'ai jamais cru à la mort de Lupin. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. La pierre n'était pas tombée par hasard sur la tête du mort. L'objectif était de rendre le cadavre méconnaissable. C'est alors que je me suis souvenu d'un article dans le journal La Vigie de Dieppe, quelques jours auparavant. Un jeune couple d'Américains, en vacances à Anvermeux, se donne la mort. Mais la nuit même de leur mort, les cadavres disparaissent. Je me suis renseigné sur place. On m'a indiqué que les frères des victimes ont emporté les cadavres. Je suis sûr, en réalité, qu'il ne s'agissait pas des frères, mais de la bande d'Arsène Lupin. Arsène Lupin est amoureux, mais il veut que cela reste secret. Et pour garder son secret, il est prêt à tout. Faire croire à sa mort et à la mort de Mademoiselle de Saint-Véran. Et pour cela, voler deux cadavres. Pour être vraiment tranquille, Lupin décide de se débarrasser de ses trois adversaires, Ganimard, Herlock Sholmès et moi. Il sait que nous sommes capables de découvrir sa ruse. Il enlève donc Ganimard et Herlock Sholmès et demande à Bredoux de m'attaquer. Il reste cependant une chose que je n'arrive pas encore à expliquer. Pourquoi Lupin veut absolument reprendre le document de l'aiguille creuse? Je connais par cœur les 5 lignes de texte. Le papier comporte-t-il d'autres indices? Est-ce que la nature du papier est un indice? Voici tout ce que je sais sur l'affaire d'Embrumésy. Je m'appuie sur des hypothèses. Avec Lupin, il n'y a jamais de preuves. Les preuves qu'on peut avoir sont toujours fabriquées par Lupin et elles mènent dans la mauvaise direction. J'en suis certain. Bientôt, nous connaîtrons la vérité. Malgré les menaces de Lupin, Beautrelet n'a pas pu garder le silence. Tout le monde attendait ses révélations. Il ne pouvait pas se taire. Le soir même, les journaux annoncent l'enlèvement de M. Beautrelet père.